Radio Okapi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal de la mi-journée. Mais voici d'abord son ossature. Un convoi d'environ 100 camions transportant du carburant et diverses marchandises est arrivé ce jeudi à Bounia. Ces véhicules qui étaient bloqués deux semaines durant à Mahagi sont arrivés à Bounia grâce aux opérations militaires menées le long de la route nationale numéro 27 contre les groupes armés. Nord Kivu, deux semaines d'alerte sanitaire, la diarrhée dans la zone de santé de Kibwa, territoire de Walikale, est maîtrisée. Le médecin chef de santé de Kibwa salue l'intervention des médecins sans frontières en entrant et des prises en charge. L'invité de ce journal, c'est le cycliste congolais Miguel Massai Sai. Il a relié à vélo la ville de Cape Town en Afrique du Sud à partir de Goma dans le cadre de son projet Pedal for Peace. Il a réalisé cette aventure en 3 mois et a traversé 6 pays. Objectif visé, sensibiliser sur la situation des guerres qui prévaut dans l'est de la RDC afin d'impliquer tout le monde dans la recherche de la paix. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue à cette grande édition du journal parlé et de la mi-journée. Après près de 2 semaines d'alerte sanitaire, la diarrhée dans la zone de santé de Kibwa, territoire de Walikale au Nord Kivu, est maîtrisée. Une victoire rendue possible grâce à une coordination efficace entre les autorités sanitaires locales, les ONG partenaires et la communauté locale elle-même. Une 60aine de cas et 2 décès ont été enregistrés dans 3 villages de l'aire de santé de Byungu. Christian Mapendano pour le détail.
Le médecin chef des zones de santé de Kibwa salue l'intervention de Médecins sans frontières MSF en entrant de prise en charge, ce qui, selon le docteur Yves Tongo Bikunde, a contribué d'enrayer la propagation et surtout à limiter les dégâts humains. Docteur Tongo se félicite aussi de l'approche communautaire. Il parle de la situation qui est sous contrôle.
MSF nous a aidés avec des kits de prise en charge de diarrhée et déshydratation, donc les kits choléra, les sérums orales, zinc, doxycycline, des ringeurs lactates. Tout ça était arrivé au niveau de l'aire de santé de Byungu à date du 8. Et aujourd'hui, la situation est vraiment sous contrôle. Il n'y a plus de cas. Nous sommes en train de suivre l'évolution par rapport à ces troupeaux qui sont en train d'aller vers Walikale.
Le 28 juillet dernier, le médecin chef de zone de santé de Kibwa a alerté sur des cas de diarrhée et vomissements causés par la consommation de viande de bœuf supposée être contaminée. Ces cas ont fait 2 décès et 10 de malades enregistrés. Les habitants de Mungote, Sengu et Taweza, dans l'aire de santé de Byungu, avaient notifié le plus grand nombre de cas.
Au sud Kivu voisin, 24 maisons entièrement calcinées et de nombreux biens de valeur réduits en cendres. Tel est le bilan de l'incendie survenu jeudi après-midi dans le quartier Kai à Bukavu. Un nouveau drame qui s'ajoute aux centaines de maisons déjà détruites par les flammes dans cette ville depuis le mois de juillet 2025. Marcel Ngombo, reportage.
24 maisons entièrement calcinées, de nombreux biens, des valeurs réduits en cendres. Tel est le bilan de l'incendie survenu jeudi après-midi dans le quartier Kaya Bukavu. Un nouveau drame qui s'ajoute aux centaines de maisons déjà détruites par les flammes dans cette ville depuis le mois de juillet 2025. Selon nos sources, l'incident aurait été provoqué par un réchaud resté branché trop longtemps sur le courant électrique. Ce sinistre survenu sur l'avenue Rissassi a jeté 36 ménages dans la rue. Actuellement, ces familles dorment à la Belle Étoile. Pour les forces vives locales, l'intervention des jeunes sportifs connus sous le nom de Pomba Solution a permis de contenir le feu. Si les pertes matérielles sont importantes, le président de la société civile locale se réjouit qu'aucune perte en vie humaine n'ait été enregistrée. Le chef de l'avenue s'est dit préoccupé par la situation que traversent ces ménages sinistrés. Ils manquent de tout et ont perdu leurs biens dans les flammes. Il lance un appel aux acteurs humanitaires pour venir en aide à ces familles. Depuis le mois de juillet, les incendies se multiplient dans les 3 communes que compte la ville de Bukavu. Au moins 10 cas ont été signalés, jetant des centaines de familles à la rue. Si aucune aide d'envergure n'a encore été apportée, certains voisins se mobilisent collectant de petites contributions pour soutenir les sinistrés. C'est le cas des habitants du quartier Nyalukemba dans la commune d'Ibanda.
En Ituri, une centaine de camions citernes et de véhicules transportant diverses marchandises bloqués depuis environ deux semaines à Mahagi, à la frontière avec l'Ouganda, sont arrivés jeudi à Bunia. Une reprise du trafic rendue possible grâce aux opérations militaires menées le long de la route nationale numéro 27 contre le groupe armé Convention pour la Révolution Populaire, la CRP. Reportage d'Isaac Remoyope, rendu par Jean-Claude Lokidile.
Ils étaient plus de 200 véhicules stationnés depuis deux semaines au poste douanier de Mahagi à plus de 185 km au nord de Bunia. Les transporteurs refusaient d'emprunter la RN27 régulièrement ciblée par les groupes armés dont Codeco, Zaïre, alliés à la milice de Convention pour la Révolution Populaire, CRP de Thomas Lubanga. Face à cette situation, les forces armées de la RDC ont lancé une série d'opérations militaires dans les localités de Lopa, Igabarir et Linji. Objectif, sécuriser l'axe et démonter les bastions des groupes armés. Résultat, une accalmie relative et l'arrivée ce jeudi d'un convoi d'environ 100 camions transportant du carburant et diverses marchandises dont les prix ont légèrement baissé sur le marché. D'autres véhicules restent encore bloqués au poste frontalier en attendant d'être escorté par l'armée. À noter qu'un chauffeur a été tué mardi dernier près de Matete sur cette route et qu'un autre conducteur ainsi que des membres de son équipage ont été dépouillés de leurs biens. Bunia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Okapi.
Au nord Kivu, la partie sud du territoire de Nirangongo a été le théâtre de plusieurs cas d'insécurité dans la nuit de jeudi à ce vendredi. Des sources recoupées répertorient des intrusions dans les domiciles des particuliers, l'attaque des changeurs de monnaie, l'on parle même d'un cas de meurtre. Le point avec Babel Mpongo, Massimango.
Le cas de meurtre dans question implique une dame, mère de famille. Elle a été mortellement blessée par balle par des inconnus alors qu'elle était dans sa maison au village Rugamba 2, à la limite avec la partie nord de la commune de Karisimbi en ville de Goma. C'est au cours de son transport vers une structure médicale qu'elle est décédée, affirment des témoins. Des coups de feu nourris ont retenti durant de longs moments la nuit au quartier du village Bugamba 2. C'est dans ces circonstances que trois autres personnes ont été grièvement blessées par balle. Deux jeunes garçons et une fille. Tous ont été admis aux soins. C'est dans ce climat de terreur que des bandits ont réussi à pénétrer dans deux maisons du même village. Ils s'y sont emparés de plusieurs biens de valeur. D'autres cas de cambriolage ont été signalés dans la localité de Kabale Katambi, dans le groupement Rusayo. C'est toujours dans les voisinages de la commune de Karisimbi de Goma. Ici, des biens ont été extorqués dans plus ou moins trois maisons. Des bandits ont dépossédé une cambiste de tout son capital au village Rokoko, au lieu appelé Maman Olive, voisin du quartier Boujovou. C'est sur le flanc droit de la ville de Goma. Les acteurs de la société civile affirment que dans la partie sud du territoire de Nirangongo, la population ne sait à quel sein se vouer.
La société civile du territoire de Kambove déplore que les habitants du village Kassala dans le groupement Lukushi, territoire de Kambove, vivent toujours dans le noir malgré la présence du barrage de Mwandingusha dans leur entité. Elle en appelle aux responsables de la SNEL de tout faire pour réparer ce qu'elle qualifie d'injustice sociale car cette population est impactée par l'exploitation de ces barrages électriques. On écoute Adeline Mabika, responsable de cette structure citoyenne, joint par Jean Ganduka Bongo.
Ça fait plusieurs années que la population de Kassala n'ont pas été raccordés en courant électrique et pourtant c'est une dotation en termes d'œuvres sociales trop attendue et saluée vu que cette population joue à la protection du barrage Mwandingusha et subit une insécurité sanitaire. Et pour cela, cette œuvre sociale doit être saluée. Et par malheur, tous les cris d'alarme se font toujours passer pour des tintamarres aux oreilles de toutes les autorités SNEL. Nous dénonçons cette attitude discriminatoire et l'injustice sociale. Et nous demandons l'implication de toutes les autorités SNEL afin que cette démarche s'accélère et que la population se réjouisse avec une dotation longtemps attendue.
Retournons encore une fois au sud Kivu où les habitants du quartier Panzi, se trouvant dans la commune d'Ibanda Bukavu, ont vécu une nuit particulièrement agitée, marquée par des tirs d'armes entre jeudi soir et ce vendredi. D'après le chef de quartier, les auteurs de ces tirs ne sont pas encore connus et la peur gagne de plus en plus les habitants qui ne savent à quel saint se vouer. Ronéline Tibonera.
Cette insécurité perdure depuis près de 48 heures. À la tombée de la nuit, des individus armés surgissent, tirent en l'air et causent des dégâts selon nos sources. Jeudi, vers 19 heures, une vendeuse de fruits qui rentrait de son petit commerce a été touchée par balle perdue à proximité de son domicile. Elle a succombé à ses blessures peu après. Au cours de la même soirée, un réservoir d'eau de 30 000 litres alimentant l'hôpital général de référence de Panzi a été perforé par balle. La fuite a provoqué l'inondation d'une grande partie de l'enceinte de l'hôpital. D'autres dégâts collatéraux ont été signalés, notamment un véhicule du bureau du quartier Panzi endommagé. Il reste difficile d'identifier les auteurs de ces actes et qui sèment la panique au sein de la population. Certains évoquent la présence de membres du groupe Ouazalendo dans cette partie de la commune d'Ibanda à Bukavu depuis le début de la semaine. Toutefois, aucune preuve formelle n'a été apportée à ces jours.
Pendant ce temps, en Ituri, l'organisation nationale Ubuntu Panafrica mène une campagne de sensibilisation pour inciter toutes les couches de la population à s'approprier le processus de paix dans une province longtemps laissée pour compte par le gouvernement. Cette initiative, axée sur la coopération civilo-militaire, considérée comme un gage de stabilité à l'est de la RDC, vise à impliquer toutes les catégories sociales. Selon l'ONG, cette collaboration reste encore fiable. Reportage d'Isaac Remoyope, rendu par Jean-Claude Lokidile.
Des centaines de personnes ont pris part à un échange réunissant civils et militaires. Parmi les participants, taximens, avocats, étudiants, députés, mais aussi certaines autorités militaires autour d'une table. But de la rencontre, consolider la collaboration entre l'armée et la population, indispensable à la construction de la paix. Selon Ubuntu Panafrica, cette coopération reste faible, la population attendant encore trop de solutions des autorités. L'ONG appelle chacun à s'impliquer pleinement dans la recherche d'une paix durable et du développement du pays.
La sécurité ne s'achète pas, la sécurité ne se donne pas, la sécurité se construit. Les constructeurs de la sécurité, c'est toute la population civile d'un côté, de l'autre côté, toute l'armée. Chacun doit améliorer là où il y a à améliorer.
Pour l'instant, l'implication des civils demeure limitée et la participation peu inclusive, en cause les bavures reprochées à certains soldats, mais aussi la complicité de certains habitants avec les groupes armés. Face à ces défis, la majorité des participants se sont engagés à sensibiliser leurs pairs pour bâtir la paix, l'un d'eux, Chadri Wakamala.
Nous sommes obligés aussi de sensibiliser les autres, faire balancer le message partout. C'est une question d'abord de prendre conscience de soi.
La campagne se poursuivra avec d'autres catégories de la population et dans d'autres localités de la province afin d'obtenir une adhésion massive à cette démarche citoyenne. Bounia, Jean-Claude Lucky, Dile, Radio Capi.
Revenons à Kinshasa où le gouvernement lance le programme Compact Résilience. C'est un programme d'urgence à impact visible pour la population. Il a été adopté fin juillet en Conseil des ministres dans l'objectif de transformer les bons résultats économiques du pays en amélioration concrète dans le quotidien des Congolais. Hier mercredi, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a réuni à Kinshasa les ministres concernés pour le lancement. Jocelyne Moussa nous en dit plus.
Pour la première ministre, il ne suffit pas d'afficher de bons chiffres. Les effets doivent se voir et se sentir dans les quartiers, sur les marchés et dans les foyers. Elle insiste pour que les Congolais constatent directement les bénéfices des mesures économiques du gouvernement. À ces sujets, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, précise, je cite, « Le compact vise à sécuriser l'approvisionnement alimentaire par la production locale de maïs, riz, soja et haricots. Il prévoit aussi le désenclavement des zones rurales, véritable bassin de production, afin que les bénéfices économiques soient tangibles pour la population. Le programme Compact Résilience prévoit également l'assainissement urbain, notamment la ville de Kinshasa. Le gouvernement entend redonner à la capitale son image de propreté et améliorer la circulation dans les zones les plus embouteillées. Le financement du programme est déjà prévu et le gouvernement souminois 2 promet un démarrage immédiat. Les premières réalisations devraient être visibles dans les prochains jours pour démontrer la volonté du gouvernement de rapprocher les résultats économiques du vécu quotidien des Congolais.
Actualité internationale.
Au Mali, la première réaction officielle hier soir à Bamako après de nombreuses arrestations au sein de l'armée. C'est le ministre malien de la Sécurité qui s'est exprimé à la télévision nationale. Il a annoncé l'arrestation des militaires et d'un Français qui serait impliqué dans une tentative de déstabilisation des institutions de la République. Julius Maada Bio, le président sierra-léonais, a rencontré jeudi 14 août à Banjul son homologue gambien Adama Barrow, juste après une visite éclair à Umaro Sissoko Embalo en Guinée-Bissau. Ensemble, ils ont abordé les questions bilatérales et régionales sur la sécurité, l'intégration et la cohésion au sein de la famille ouest-africaine.
L'invité.
Le cycliste congolais Miguel Massaï Sai a relié à vélo la ville de Cape Town en Afrique du Sud à partir de Goma dans le cadre de son projet Pedal for Peace. Il a réalisé cette aventure en 3 mois et a traversé 6 pays. Objectif visé, sensibiliser sur la situation des guerres qui prévaut dans l'est de la RDC afin d'impliquer tout le monde dans la recherche de la paix. Dans cet entretien avec Vanessa Nkongolo, il revient sur ses motivations.
Miguel Massaï Sai, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes cycliste congolais, vous avez lancé un défi, Pedals for Peace. Vous avez quitté Goma jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ces périples?
Ce qui m'a motivé à faire ces périples, c'était la souffrance que je vois que nous sommes en train de vivre, surtout qui est causée par rapport à la guerre. Et je me suis dit, étant un jeune sportif de la République démocratique du Congo, je peux aussi faire quelque chose pour voir si on peut trouver la paix chez nous au Congo. Et je me suis dit que les seules armes que j'ai, c'est mon vélo, parce que je suis sportif. Et le vélo, c'est une arme qui est pacifique. Et je me suis dit, j'ai pris mon vélo, j'ai commencé la route juste pour porter un message de paix à travers l'Afrique.
Alors, Miguel, 3 mois après, vous avez quitté Goma le 17 mai et vous êtes arrivé à Cape Town. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face?
Beaucoup de difficultés en route. Des places pour dormir, c'était compliqué parce que je n'avais pas de sponsors durant tous les trajets. Des animaux dans les parcs, j'ai traversé des parcs avec des animaux sauvages. C'est parmi les difficultés, parfois les problèmes mécaniques avec mon vélo. Donc, c'était compliqué.
Comment avez-vous été reçu dans différents pays par lesquels vous êtes passé?
Dans tous les pays par lesquels je suis passé, j'ai été bien reçu. Et les Congolais m'attendaient pour m'accueillir, mais également il y a d'autres personnes qui m'accueillaient surtout et me donnaient des places pour porter mon message, pour parler du message de paix. Ouais.
Alors parlons justement du passage dans différents pays et les messages de paix. Vous êtes aussi passé par le Rwanda. On sait que les deux pays sont en conflit. Et comment est-ce que vous avez été accueilli sur place au Rwanda?
Pour le Rwanda, j'étais seulement j'ai traversé le Rwanda parce que c'était parmi mon chemin. Donc c'est ça. J'ai juste traversé le Rwanda pour aller à Tanzanie.
Alors, parlons justement du message. Quel a été le message que vous avez porté tout au long de votre périple?
Mon message était la paix et l'unité de la jeunesse africaine.
Et comment vous l'avez partagé?
J'organisais des conférences avec des jeunes. J'ai été invité à des radios, des télévisions, dans des églises, partout en cours de route. J'ai parlé de la paix chez nous au Congo et de la situation qui se passe chez nous.
Alors, vous êtes arrivé à Cape Town le 10 août dernier. Quel est le message fort que vous lancez après ces longs périples pour la paix dans l'est du pays et surtout aussi dans toute la région du Grand Lac?
Donc, le message que j'ai pour mon pays, pour la paix, j'ai dit ceci: nous devons être unis pour que nous ayons la paix, mais également nous devons multiplier des petites actions comme je l'ai fait Pedals for Peace pour que nous ayons la paix. Parce que la paix, premièrement, ça commence par la conscience. Si on est conscient que nous voulons la paix et nous développons cette conscience pour la paix, nous aurons la paix. Mon message est soyons conscients pour la paix chez nous, parce que ça nous concerne tous.
Et aux jeunes qui vous suivent et qui sont dans les groupes armés et partout.
Aujourd'hui, ils sont dans les groupes armés. J'étais très conscient et de multiplier des actions pacifiques dans les pays. Parce que si on n'est pas conscient et on s'est fait utiliser, il n'y aura pas la paix. Parce que la paix nous concerne et à partir de la paix, nous serons aussi développés comme d'autres pays si nous avons la paix.
Miguel Massaïsaï, Radio Okapi vous dit merci.
Merci à la Radio Okapi et merci à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Merci.
C'était notre invité Miguel Massaïsaï qui s'entretenait avec Vanessa Nkongolo. Et voilà qui met fin à cette grande édition du journal Parler de la mi-journée, coordonnée et supervisée par Jean Gandou Kabongo et mise en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa. Ces informations peuvent être suivies sur nos plateformes digitales et sur notre site internet www.radiokapi.net. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix et bon début de week-end à tous.